Chronique Actualité internationale avec François Larochelle, ancien diplomate canadien. Bonjour, M. Larochelle.
Bonjour, Mme Denis.
On peut dire que 2026, qui n'a que 8 jours, commence sur les chapeaux de roue suite à l'opération militaire américaine et à la capture du président Nicolas Maduro, le président du Venezuela, en fin de semaine dernière. Ça s'est passé à Caracas, au Venezuela.
Oui, cette opération de l'armée américaine dans la nuit du 2 au 3 janvier a en effet fait commencer l'année avec fracas. Mais Nicolas Maduro n'avait pas aidé sa cause. En se maintenant par tous les moyens au pouvoir, y compris par la terreur, après avoir manifestement perdu l'élection présidentielle de 2024, il s'était dépouillé de ce qui lui restait de légitimité populaire. À l'origine d'une vague migratoire qui a touché l'ensemble du continent américain, son bilan catastrophique à la tête d'un pays riche en hydrocarbures, mais appauvri par l'incompétence, la violence et la corruption, plaidait depuis longtemps pour son départ. Mais cela ne justifiait pas cette opération des cow-boys américains totalement illégale. Après le, qu'on pourrait dire, kidnapping de Maduro, les Vénézuéliens ont appris que Washington entendait en plus diriger leur pays sans leur demander leur avis et pour une période indéterminée. Les intérêts des États-Unis tels que Donald Trump les conçoit l'emportent sur la volonté populaire vénézuélienne, la souveraineté du pays et le souci de faire renaître une démocratie. Du moins pour un avenir proche, si on peut se fier aux déclarations de Trump et de ses sbires. Car l'important pour Trump, ce sont les compagnies de pétrole américaines. Avec cette opération, c'est le retour à un impérialisme de prédation.
Un impérialisme de prédation. Et au Venezuela, quelle est la réaction?
Bon, au début, ce fut évidemment la stupeur. Et maintenant, on dit qu'au moins une centaine de personnes seraient mortes lors de l'attaque. Des civils, des membres des forces de sécurité et dont notamment des Cubains.
C'est le New York Times qui rapportait ça.
Oui, c'est ça. Des scènes de liesse de la diaspora vénézuélienne se sont produites un peu partout dans le monde, y compris à Montréal. Mais au Venezuela, la population reste prudente ou elle a tout simplement peur,
ouais.
Car elle ne sait pas trop ce qui va se passer, comme nous d'ailleurs. Car si Maduro a été neutralisé, le reste du régime, lui, est en place et la répression aussi.
Depuis lundi, c'est l'ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez qui est la présidente par intérim.
Oui. Au lendemain de l'intervention contre Maduro, son ton était à la résistance. Mais après des menaces de Trump et de son secrétaire d'État Marco Rubio, son ton s'est modéré. Elle a parlé de relations respectueuses entre son pays et les États-Unis et de travailler conjointement pour un agenda de coopération. Franchement, à ce stade, on ne sait pas trop ce que fera le régime de Caracas. Il se dit en parfait contrôle de la situation, mais les Américains, eux, disent qu'ils dirigent le pays à partir de Washington. C'est pas simple, tout ça.
Non. Mais qui est cette Delcy Rodriguez?
Bon, c'est une fidèle parmi les fidèles du régime de Maduro. Elle est la fille d'un guérillero marxiste. Elle a grandi rapidement les échelons politiques, d'abord sous la présidence d'Hugo Chavez, puis sous celle de Maduro. Maduro, d'ailleurs, l'avait nommée vice-présidente en juin 2018. Delcy Rodriguez a elle-même été sanctionnée tant par l'Union européenne que par les États-Unis, car elle est accusée d'avoir participé à la détérioration de la démocratie dans son pays. Et comme vous l'avez mentionné, elle a effectivement pris ses fonctions là, lundi 5 janvier.
Tout récemment.
Ouais.
Pendant des mois, la pression exercée sur le Venezuela était justifiée par les États-Unis comme une guerre contre le narcotrafic. Une autre priorité s'impose maintenant, c'est l'accès au pétrole de ce pays d'Amérique latine qui est assis sur les plus grandes réserves d'or noir du monde.
Dans l'immédiat, les exportations de pétrole vénézuélien ne devraient pas reprendre substantiellement tant que les sanctions américaines resteront en vigueur, ce qui est encore le cas d'ailleurs. Mais Trump vient d'annoncer que le Venezuela allait livrer du pétrole aux États-Unis pour être revendu sur le marché et que c'est lui qui allait gérer tout ça. À plus long terme, il faudra des années et des sommes colossales pour faire revenir la production vénézuélienne à son niveau maximal. Celle-ci s'est littéralement effondrée au cours des deux dernières décennies. Le Venezuela produisait plus de 3 millions de barils par jour au début des années 2000. Il en produit aujourd'hui à peine 900 000, moins de 1 % de l'offre mondiale. Pour remettre tout cela sur les rails, on estime qu'il faudrait y investir 100 milliards de dollars.
Juste ça.
La conjoncture qui règne présentement sur les marchés pétroliers n'y est cependant pas favorable. L'offre est largement excédentaire et les prix évoluent près de leur plus bas niveau depuis 5 ans. Une équation d'autant plus complexe que le pétrole du Venezuela est très cher à produire. C'est comme nos sables bitumineux en Alberta. De plus, il n'y a pas de stabilité financière et politique au Venezuela, comme on le constate, et la sécurité sécuritaire pourrait aussi se détériorer rapidement.
Si on vous suit bien, le droit international et des organisations comme l'ONU, déjà amoindries, vont sortir encore plus abîmées de cet événement, de cet épisode.
C'est sûr. Depuis des années, cet ordre-là, qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale, continue de s'émietter dans un paysage géopolitique remodelé par quelques brutes dominantes. Pour les dirigeants russes et chinois, ce qui vient de se dérouler, c'est du bonbon idéologique, malgré quelques désavantages immédiats. La Chine et la Russie peuvent se réjouir dans l'affirmation concrète par Trump du droit aux sphères d'influence et à la chasse gardée des empires. C'est bon pour la guerre en Ukraine pour Poutine et des menaces à l'égard de Taïwan pour la Chine. Mais ces pays quand même perdent avec le Venezuela un allié et un client.
Ah, alors, c'est pas fini.
Malheureusement,
c'est loin
non.
d'être fini.
Parce que baignant dans sa folie impérialiste, Donald Trump a réaffirmé son souhait de voir le Groenland maintenant passer sous la coupe américaine, une priorité de sécurité nationale pour les États-Unis, selon lui. Il a aussi menacé la Colombie et le Mexique.
Ce début d'année est donc déstabilisant pour un monde qui pourrait se découper en sphères d'influence dans lesquelles la loi du plus fort supplante le respect du droit international.
Absolument, mais il y a un autre élément qu'il faut considérer et c'est la politique intérieure américaine. Trump paraît affaibli à l'approche du scrutin de mi-mandat de novembre prochain, car les républicains pourraient bien perdre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat. Avec sa philosophie MAGA, Donald Trump avait promis d'en terminer avec les guerres sans fin. Mais depuis son retour à la Maison-Blanche, il s'implique dans de nombreuses négociations de paix, tout en bombardant un peu partout sur la planète. Le déclenchement de l'opération Venezuela va peut-être avoir un impact négatif sur sa base électorale. Parce que plusieurs facteurs s'additionnent aujourd'hui contre Trump, qui est d'ailleurs au plus bas dans les sondages, avec le coût de la vie qui augmente et l'affaire Epstein qui revient le hanter régulièrement. Il y a aussi la question des tarifs qui est présentement devant la Cour suprême et une décision devrait venir dans les prochains jours ou prochaines semaines. Si l'inflation continue de sévir, c'est bien davantage elle qui risque d'affaiblir le score des républicains que l'aventurisme latino-américain de la Maison-Blanche. À noter que dans une proportion de 72 % les Américains affichent leurs craintes face à une trop grande implication des États-Unis au Venezuela, selon un sondage Ipsos Reuters mené au début de cette semaine. À peine un tiers des répondants approuvent la capture du dictateur par l'armée américaine. Car cette intervention pourrait avoir des conséquences désastreuses, comme lors des récentes interventions américaines en Afghanistan, en Irak et en Libye, qui ont toutes été des échecs coûteux. Il y a de fortes chances que les Américains se retrouvent dans une situation qu'on pourrait qualifier du droit dans l'engrenage. Du doigt dans l'engrenage, mais le droit aussi dans l'engrenage. Il est malheureusement beaucoup trop tôt ou heureusement trop tôt pour savoir ce qui se passera dans l'avenir, mais personnellement, j'hésite entre ce que Trump ou que Trump recule dans sa nouvelle approche prédatrice ou que ce sera une fuite en avant qui se terminera mal pour nous tous. Parce que beaucoup d'historiens présentement font un lien avec ce que l'on voit au plan mondial et les prémices des deux dernières guerres mondiales. En tous les cas, pour terminer, ceux qui s'intéressent à la politique internationale vont être comblés au cours des prochains mois.
Façon de parler, oui.
Et on n'est pas prêt de s'ennuyer. En espérant, bien sûr, qu'on ne voit pas les troupes américaines défiler sur la rue Sainte-Catherine en 2026.
Oui, mauvais rêve. Hein? C'est le défilé de la Coupe Stanley qu'on peut voir sur la rue Sainte-Catherine.
Rêvons. Il y en a qui sentent déjà la coupe.
Oui. Bonne année 2026 malgré tout, M. Larochelle.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.